Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
Jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez nombreux...
No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève.
Il sait qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
Fusion du cœur du réacteur dans 10 secondes. 9, 8, fusion évitée.
Nous appartenons à la commission de réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il doit y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes pour ce jeudi, alors que mon micro se casse un tout petit peu la figure. Je regarde Laurent en face de moi qui va vous dire bonjour lui aussi tout de suite.
Bonjour lui aussi tout de suite.
Ah, oui, vous avez compris, nous avons un peu chaud au cerveau encore cette semaine. Alors on vous a préparé un menu très complet et un peu long. On va vous parler plein de choses. Hein. On va vous parler d'artistes dissidents, on va vous parler de Palestine, on va vous parler d'ouvrières en Chine. On ira en Turquie, on parlera de la mondialisation et des migrants, on parlera de M. Berlusconi, de la FIFA, on vous parlera de la FNSEA, des combats de coqs, et oui, du livre, hein, tout aussi, de Mme Inès de la Fressange, de la Légion d'honneur, peut-être, et peut-être de vélo, peut-être.
Mais ouais, non, mais nous parlerons de vélo. On ouvre ce Canyon Info par un mot sur une résistance d'artistes, c'est ça?
Ouais, par une bonne nouvelle. J'ai décidé cette semaine que nous pourrions vous proposer une bonne nouvelle. Alors vous connaissez l'artiste Ai Weiwei, on a beaucoup parlé de lui, dissident chinois, qui a eu beaucoup de problèmes avec les autorités. Et hier, 4 ans après avoir été privé de voyage hors de Chine, l'artiste a récupéré son passeport. Alors il peut désormais quitter la Chine, alors il le peut, hein, d'une manière tout à fait théorique. Mais ça va dépendre du pays dans lequel il voudra se rendre. Voilà, donc il reste quand même quelques barrières. Alors il faut se souvenir, hein, en 2011, il avait été emprisonné 81 jours, sans aucune raison. Voilà. Puis finalement, il avait été accusé d'évasion fiscale. Alors, il s'est bataillé, hein, pour récupérer son passeport. Il a mené une campagne pendant plus d'un an et demi pour protester. Il avait photographié quotidiennement des bouquets de fleurs dans le panier de son vélo, le panier avant. Et puis, il mettait son travail en ligne sous le hashtag Flowers for Freedom. Et là, les réseaux sociaux se sont chargés de propager ses messages. Alors, parallèlement à son interdiction de voyager, ses œuvres, elles ont voyagé, elles ont été exposées un petit peu de partout dans le monde. Hein. Ça n'a pas empêché ses œuvres d'être montrées. Et puis, c'était aussi pour beaucoup à l'international un soutien à l'artiste. Malgré tout, ces derniers temps, il y avait eu un petit peu une amorce d'aller vers l'avant de la part des autorités chinoises. En juin, un journal officiel Voix, donc des autorités, qui avait écrit que peut-être il était temps de tourner la page. Il avait été autorisé, Ai Weiwei, à inaugurer sa première exposition individuel dans l'espace 798. C'est une place de l'art contemporain à Pékin. C'est vraiment un haut lieu. C'est un quartier. C'est là où ça bouge. Et donc, évidemment, les autorités n'aiment pas bien cet endroit. Mais à côté de ça, c'est un artiste, c'est un dissident. Et il est le symbole de la résistance face à la répression des autorités chinoises. C'est un soutien, je vous disais, qui était international. Mais c'est un soutien qui est d'abord et avant tout local. Et c'est bien ça aussi qui est important. C'est parce que c'est pas juste un artiste qui a des soucis avec la répression. C'est aussi maintenant un symbole très fort. Et il est accompagné par toute une population qui en a marre de cette répression. Donc c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Alors il paraît que le premier endroit où il aimerait aller, c'est en Allemagne. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait pratiquement un an que son fils vit à Berlin et que il a peut-être envie d'aller le voir et de se déplacer. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, moi je vais être beaucoup moins sympathique avec des nouvelles beaucoup moins drôles, beaucoup moins sympas et beaucoup moins positives, puisqu'on va parler un peu de Palestine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point. Je trouve que là, ce début d'été est quand même pas facile du tout pour les Palestiniens. Donc aujourd'hui, un Palestinien a été tué par des soldats israéliens dans le village de Beit Omar en Cisjordanie. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que les soldats ont débarqué dans ce village qui est près de Hébron. Ils ont attaqué une maison. Alors l'objectif, soi-disant, c'était d'arrêter un des fils qui habite cette maison, Mohamed Abou Maria, très exactement. Et en fait, ils sont intervenus ce matin, tout le monde dormait, et comme des sauvages, bien évidemment, ils ont cassé la porte d'entrée, tout ça. Le père est descendu en courant, j'imagine en hurlant pour demander ce qui se passait, et là, les flics lui ont tiré dessus. Les militaires plutôt lui ont tiré dessus, donc il est décédé. Son fils a été blessé et voilà où on en est. Alors c'est une des multiples arrestations de ces derniers jours et de ces dernières semaines en Cisjordanie occupée, hein, puisque hier encore une sorte de raid a attaqué un village et à nouveau le but était d'arrêter des Palestiniens. Donc là c'est à Burkina où ça s'est passé. Donc soi-disant ils recherchaient des personnes et en tout cas ils sont arrivés, ils ont tiré à balles réelles. C'est régulier. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce que peuvent donner comme info les autorités israéliennes. Ils disent ah ouais, mais quand on arrive, des fois les gens nous jettent des cailloux, alors on leur tire dessus. Alors effectivement, riposter à balles réelles face à des cailloux jetés par des fois même des gamins, c'est quand même disproportionné, mais a priori l'armée israélienne a le droit à utiliser des forces disproportionnées. Et alors on va parler un peu du village de Soussia, donc, puisque la Haute Cour de Justice a donné une fois de plus l'autorisation à l'administration civile de démolir ce village. Donc à tout moment maintenant, les habitants, donc 340 hommes, femmes et enfants, attendent la destruction et l'expulsion de ce village. Alors c'est pas un cas unique dans les territoires occupés, ça se passe en Cisjordanie, mais c'est une des méthodes qu'utilise l'État d'Israël pour virer les Palestiniens de cette zone C, qui est une grosse partie des territoires palestiniens occupés par l'armée israélienne. Donc ce village de sud de la Cisjordanie est aujourd'hui et depuis déjà un certain temps un symbole, parce que le village a été expulsé et détruit plusieurs fois. D'ailleurs, ça s'est passé il y a 30 ans très exactement, la première destruction. Quand ils ont détruit leur maison, les habitants se sont mis juste un peu plus loin sur leurs terres agricoles. Ils ont reconstruit des choses qui ont été à nouveau détruites. Ça a duré comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils habitent plus dans des maisons dures, ils habitent dans des tentes ou dans des grottes, parce qu'il y avait des vieilles grottes dans le coin. Ils sont soutenus par les gens du coin, par l'ONG israélienne B'Tselem, hein, qui fait des reportages assez régulièrement sur ce qui se passe à Soussia, mais aussi dans le reste de la Cisjordanie. B'Tselem racontant bien l'objectif des autorités israéliennes qui est de s'emparer de ces terres pour y implanter des colonies. Il y en a déjà une juste à côté. Ils sont aussi soutenus par d'autres ONG, notamment les rabbins pour les droits de l'homme, donc forcément les rabbins c'est aussi une ONG israélienne, qui eux vont devant chaque fois les tribunaux pour les aider. C'est mais bon, là ils ont perdu, hein, puisque effectivement le village est à nouveau menacé de destruction. Alors c'est dans la zone C que ça se passe, cette fameuse zone qui représente à peu près 60% de la Cisjordanie, qui est sous le contrôle militaires et civils israéliens. Et l'excuse souvent des autorités israéliennes, c'est de dire « Ah, mais ils ont construit sans permis de construire ». Mais forcément, puisque quand il y a des demandes de permis de construire, 99 fois sur 100, ils sont refusés de la part des autorités israéliennes. Donc les Palestiniens ne peuvent pas construire. Donc ils sont obligés, si, de construire, mais illégalement. Ce qui était le cas, là, quand ce village est détruit, construit juste à côté. Et ils sont forcément illégaux chez eux, sur leur propre terre, hein, puisque c'est leur propre terre, hein, où ils sont dans ce village. Voilà. Il faut savoir que l'objectif, c'est de continuer la colonisation. 400 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie. A priori, le but, c'est d'aller encore plus haut dans ce chiffre. Voilà pour les infos du jour sur la Palestine.
Alors, on va partir ailleurs, et on va d'abord parler d'une vidéo dont vous l'avez peut-être vue, cette vidéo qui s'est pas mal baladée sur Internet. Cette vidéo, elle se déroule dans une cabine d'essayage en Chine. Et on y voit les ébats d'un couple qui s'amuse vraiment très très bien. Et cette cabine d'essayage, elle se situe dans un magasin de la chaîne de vêtements Uniqlo. Uniqlo, c'est un groupe japonais. Et donc voilà, ça a fait effectivement un peu du buzz, comme on dit, hein, sur Internet. La marque a tenté de profiter un peu de cette petite notoriété, hein, pour se faire connaître. Bon, le truc moins drôle, c'est que les deux amoureux se sont fait arrêter dimanche.
Merde.
Ouais. Non, c'est pas, voilà. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que cette affaire, elle a remis en avant une lutte qui se passe en Chine. C'est les ouvrières d'une usine de confection qui s'appelle Artigas Clothing and Leather. C'est une usine qui appartient à Leather Steel à Shenzhen. Et cette usine, elle est sous-traitante pour Uniqlo. Et les ouvrières se sont mises en grève depuis le 8 juin dernier. Et elles tentent de profiter de ce buzz internet pour évidemment que leur lutte soit davantage médiatisée. Ce que nous faisons ce soir, bien évidemment, nous le répondons. Alors, c'est un mouvement très important. Elles ont décidé d'occuper leur usine. Il y en a 200 qui dorment à l'intérieur. Pourquoi ? Ben, comme souvent, hein, c'est la même chose ici, ben, pour éviter que les machines soient embarquées, puisque c'était ce qui était prévu par la direction. Le déménagement avait d'ailleurs commencé, donc elles ont bloqué les machines, elles occupent les lieux. Leather Steel, donc, c'est un sous-traitant de Fast Retailing, la maison mère d'Uniqlo. Et la direction, elle veut délocaliser l'usine, la production vers une autre usine, excusez-moi. Alors évidemment, là, les ouvrières, ce qu'elles craignent, c'est de perdre leur emploi, tout simplement. Et puis surtout, non seulement elles perdent leur emploi, elles soient licenciées, mais qu'en plus de ça, elles aient pas de dédommagement, ou alors un truc absolument ridicule. Alors, avec cette nouvelle affaire de vidéo amoureuse, nous allons l'appeler comme ça, il y a une solidarité nouvelle qui s'est mise en place, et là, les internautes ont commencé eux aussi à faire du buzz, mais pour elles. Alors par exemple, ils sont allés dans les magasins et ils se sont pris en photo avec des pancartes appelant au boycott. Donc voilà, ça s'est renversé d'un seul coup. D'autant plus que Fast Retailing a été critiqué, c'était en janvier dernier, par une ONG de Hong Kong. Le rapport dénonçait les conditions de travail, comme souvent dans les usines. Une rémunération très faible, des heures supplémentaires non ou mal payées, des locaux surchauffés, des mesures de sécurité non respectées. Bon, les traditionnelles critiques sur ces usines. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réaction de la maison mère d'Uniqlo, qui, dans son communiqué de vendredi dernier, indique avoir demandé à Leather Steel de résoudre le conflit de manière pacifique. C'est drôle parce que voilà, tout de suite quand même il y en a qui se méfient en se disant elles vont encore se faire réprimer comme c'est déjà arrivé sur des luttes dans ces usines de textiles. Donc voilà, ça c'est la réponse, ça va pas bien loin quand même. En tout cas ce Uniqlo veut faire attention à son image, hein. Ils ont essayé de se servir de cette vidéo, puis finalement tout ça se retourne contre cette communication un peu opportuniste. Tant mieux, parce que là, ils sont en plein développement pour ouvrir de nouveaux magasins, ce qui veut dire, évidemment, de nouvelles usines sous-traitantes et de nouvelles usines qui vont peut-être, elles aussi, mettre en place de mauvaises conditions de travail.
Alors, on va parler brièvement de la situation sur la frontière turque, syrienne et kurde, on va dire. Les répercussions qu'ont pu avoir les différents morts, hein, ces derniers jours. Alors aujourd'hui, en tout cas, 3 personnes ont été arrêtées. A priori, donc c'est suite au meurtre des 2 policiers, meurtre d'hier, qui a été revendiqué par des militants du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, ennemi historique de l'État turc. Alors aujourd'hui, on a aussi un policier qui a été tué lors d'une fusillade dans un quartier de Diyarbakir, une grande ville très kurde, hein, enfin en tout cas majorité kurde du sud-est de la Turquie. Un autre policier a été blessé. Alors ça, on n'a pas encore les raisons de tout ça. En tout cas, tout ça intervient suite à ce qui s'est passé en début de semaine. C'est l'attentat de Suruk dans le sud. Donc de la Turquie, attribué à l'État islamique, hein, c'était lundi dernier, et enfin en tout cas les militants kurdes sur place notamment accusent la Turquie, alors pas forcément d'avoir fait l'attentat, mais d'avoir tout fait pour qu'il ait lieu, c'est-à-dire déjà soutenu l'État islamique. Il faut rappeler quand même que la Turquie était sur cette frontière-là avec la Syrie, est un énorme grouillère exprès, hein, volontairement, qu'il y a une attitude très ambiguë, hein, du gouvernement, du président, hein, du leader, du futur dictateur, si ça continue comme ça, Recep Tayyip Erdogan. Donc une attitude très ambiguë, hein, sur l'État islamique. Et effectivement, suite à cet attentat qui a fait quand même 32 morts, hein, c'était des militants de gauche kurdes et turcs aussi, mais surtout kurdes, qui participaient donc à une réunion pour aller participer à la reconstruction de Kobané, vous savez, cette ville symbolique syrienne qui a été repris par les Kurdes à l'État islamique. Donc voilà, tous ces reproches ont fait que la tension est montée, les différents meurtres depuis 2 jours sont là pour le prouver. Ce qu'on attend maintenant, c'est une réaction peut-être un peu sérieuse de Recep Tayyip Erdogan. Alors on pensait qu'il allait mettre, c'était l'idée qui courait, une zone tampon, créer une zone tampon donc entre la Syrie et la frontière, disons, turque. Eh ben, ça a été abandonné aujourd'hui. Donc, on n'a pas vraiment d'idée de ce qui va être mis en place. Et donc, c'est ce que reprochent notamment les militants qui soutiennent les Kurdes. On rappelle qu'il y a une mobilisation en Turquie avec des manifestations dans plusieurs villes, mais aussi dans le monde entier. Il y a eu un rassemblement à Lyon lundi pour soutenir les Kurdes. Voilà, c'est pas gagné du tout sur la stabilité de cette région. Et on peut dire que le gouvernement turc ne joue vraiment pas le jeu de la stabilité.
Alors on va parler de mondialisation et de migrants, je vous lisais ça en introduction. Alors on va parler de Yone Tekiota, je vous rassure, ça ne doit pas exactement se prononcer comme cela. 38 ans, il est originaire des Kiribati, un archipel océanien menacé par la montée des eaux. Et bien, il devrait être expulsé vers son pays après avoir été débouté par la justice néo-zélandaise de sa demande d'asile climatique. Alors, les Kiribati font partie de ces îles, de ces nations iliennes, qui sont, selon la Commission des droits de l'homme de l'ONU, des endroits, des lieux qui pourraient devenir sans terre. Donc c'est quelque chose quand même qui est très sérieux, sa demande. Alors, il demandait le statut de réfugié au motif que lui, sa femme et les 3 enfants, tous nés d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, encouraient à terme un péril mortel en restant au Kiribati. Alors, les 3 archipels qui représentent une 30aine d'atolls sont régulièrement envahis par les eaux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces eaux qui envahissent? Il y a une érosion. Les récoltes sont mauvaises puisqu'il y a l'eau salée qui arrive sur ces terres agricoles, qui arrive dans les réserves d'eau douce. Et il faut savoir que le copra et la pêche, ce sont les principales sources de revenus des habitants. Alors en 2008, il y a eu un recensement. On parlait de 110 000 habitants.
C'est quand même beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup, et surtout qu'il y a une forte natalité. Donc, j'ai absolument aucune idée des chiffres actuels en 2015. Alors, la Cour suprême néo-zélandaise confirme les rejets prononcés en première instance et en appel. La Cour a statué que le requérant et sa famille ne répondaient pas aux critères d'octroi du statut de réfugié, puisque je vous rappelle que selon l'ONU, il faut être menacé de persécution dans son pays natal.
Oui, et la notion de réfugié climatique n'est pas encore officiellement autorisée.
Oui, la Cour elle a bien reconnu que les Kiribati étaient incontestablement confrontés à des défis climatiques, mais elle a estimé qu'ils n'encouraient pas de graves dangers, lui et sa famille.
Pas encore, a priori.
Voilà. Alors, et puis, la Cour estime aussi qu'aucun élément matériel n'indique que le gouvernement des Kiribati manque à son devoir de protéger sa population des effets de la dégradation environnementale dans la limite de ses moyens.
Ouais, on rappelle que la dégradation elle est créée par les pays occidentaux, dont la Nouvelle-Zélande, et que le pauvre gouvernement de là-bas n'a vraiment pas les moyens de faire quoi que ce soit.
Alors, oui, effectivement, aux Kiribati, y a des idées. Hein. Alors, la République des Kiribati a lancé, c'était en 2012, des négociations avec les voisins, comme les Fidji, pour l'achat de terres. L'idée, c'est de relocaliser la population. Alors, il y a eu des alternatives qui ont été avancées avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'idée, c'était peut-être d'y construire des îles artificielles. Donc, ils cherchent, effectivement. Mais enfin, a priori, à terme, c'est quand même mal barré. Alors, peut-être que ça sera au programme de la conférence mondiale, là, qui arrive bientôt. Non. Peut-être un nouveau cheval de bataille pour M. Hollande. On ne sait pas.
On va parler un petit peu de la Russie avec deux infos.
Ah, j'avais une autre info dans le même genre, si vous voulez. Très très rapidement, je t'interromps.
Ah, oui.
Allez, je me lance très vite. C'est la mondialisation aussi avec les migrants, puisque c'est l'Autriche qui a décidé de confier à la Slovaquie le soin de loger 500 migrants à sa place.
Oui, donc ils n'avaient pas de place en Autriche.
Des immigrants qui vont formuler une demande d'asile en Autriche. Alors c'est un accord bilatéral qui a été conclu mardi qui permet cela. La Slovaquie va prendre à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture, mais l'Autriche va assumer les frais de personnel et puis surtout c'est toujours l'Autriche qui va continuer à avoir la responsabilité de ces réfugiés. C'est elle qui va gérer la partie, on va dire, juridique, légale, dans cette affaire. Alors, il paraît que c'est un grand signe de solidarité de la part de la Slovaquie pour la ministre de l'Intérieur autrichienne. Et puis, du côté de la Slovaquie, on se demande un petit peu...
De l'Autriche.
Là, je te dis, c'était la ministre de l'Autriche et du côté de la Slovaquie. C'est vrai que il fallait un peu justifier aussi pourquoi accueillir ces réfugiés. L'idée, c'est de payer la dette envers l'Autriche, puisque l'Autriche a accueilli des réfugiés à l'époque du rideau de fer, a soutenu l'adhésion du pays à l'Union européenne. Ah, oui. Donc voilà, c'est une espèce de retour, un bon procédé si vous voulez. Et puis, comme tu le disais, effectivement, l'Autriche estime qu'ils n'ont plus de place et qu'ils n'ont plus les structures adaptées.
Ils n'ont plus de place, ils font rêver. Ils se foutent de notre gueule.
Voilà. Ah ben, mais c'est toujours pareil, hein. Chacun se renvoie, les migrants et les réfugiés. Voilà, c'est un accord de plus contre les migrants, mais il y en a plein. La France, elle en signe plein, tout le temps. Voilà, mais c'était un de plus.
Bon, je vais enfin parler de la Russie.
Ah, mais je t'en prie.
Donc, avec deux petits trucs drôles et pas drôles. Le premier, vous savez que hier, c'était les 1 an de la destruction du Boeing de la Malaysian Airlines, qui a été abattu là au-dessus de l'Ukraine. Donc avec 298 personnes à bord, donc 298 morts. On n'a toujours pas les infos sur ce qui s'est passé exactement, en tout cas pas officiellement, puisque la commission d'enquête devrait rendre son rapport normalement à la rentrée en octobre. Mais les fuites qui sont sorties quand même disent que ce serait bien un missile tiré de la zone dans laquelle il y a les combattants russophones et donc militants nationalistes russes qui seraient a priori donc à l'origine de ce missile sol-air, puisque c'était d'un village contrôlé par ces rebelles pro-russes. Alors bon, ça, on attend la confirmation à la rentrée. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter sur le 27 juillet la demande faite par certains pays, notamment la Malaisie, l'Australie, la Belgique et bien évidemment le pays qui est le plus touché par par la mort de ces néerlandais, majoritairement ils étaient néerlandais, demander que le Conseil de sécurité de l'ONU vote une initiative pour faire avancer les choses, qui est notamment un tribunal international pour juger l'affaire. Et bien évidemment, ça arrive donc dans quelques jours et tout le monde sait que ça passera pas. Pourquoi? Parce que la Russie a déjà dit qu'ils mettraient leur veto. Vous savez, dans la démocratie internationale de l'ONU, il y a 7 pays qui ont un droit de veto sur les autres. Et donc, la Russie va mettre son veto. Alors, bizarrement, à quoi ça sert que la Russie mette son veto? Ben, ça évite de faire sortir l'affaire tout de suite. Ça sert à ça essentiellement, parce qu'à un moment ça va sortir et on saura. Et pourquoi la Russie fait ça? Eh ben, s'ils n'étaient pas coupables de quelque chose, ils le feraient pas, hein, bien évidemment. Et c'est ce que tout le monde dit. Alors bien sûr, l'apprenti dictateur Poutine dit que non, parce que ça sort trop tôt et ça sera contre-productif. On ne sait pas de quoi ça serait contre-productif. Le rapport va être rendu en septembre ou en octobre, et l'enquête, elle va pas avancer dans les deux mois qui restent. Hein. Et là, ils sont en train de rédiger le truc, ils ont déjà toutes les infos. Donc ça serait pas du tout contre-productif. Ça montre juste que effectivement, Moscou est quand même un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce qui s'est passé et essaye de bloquer toutes les actions qui peuvent avoir lieu de partout au niveau international, qui pourraient accuser ses amis, enfin les gens qu'elle a armés, du coup, pour tirer accidentellement, parce que le but n'était pas de descendre un avion de ligne, le but, comme il l'avait réclamé, comme il l'avait dit d'ailleurs tout de suite, ils étaient tout contents, les militants pro-russes, ou les nationalistes russes, vous les appelez comme vous voulez, d'avoir descendu un avion de guerre. Bon, c'était pas un avion de guerre. Puis après, ils ont dit que c'était pas eux. Mais bon, bref. Voilà. Et alors, le truc drôle aussi, puisque, a priori, d'après M. Silvio Berlusconi, il aurait rencontré, dîné avec Vladimir Poutine, et le grand homophobe russe qu'est Vladimir Poutine aime beaucoup, a priori, les politiciens italiens qui aiment les petites filles, hein, puisqu'il aurait proposé à Silvio Berlusconi de lui accorder la nationalité russe et de le nommer ministre de l'économie. Bon, c'est Berlusconi qui dit ça, c'est juste drôle, mais c'est... Poutine a l'habitude de faire des trucs de ce genre-là, donc on ne serait pas surpris qu'il accueille ce ô combien grand démocrate, ô combien grand militant de la cause des femmes qu'est Berlusconi, non, la cause de l'exploitation des femmes, pardon, qu'est Berlusconi.
Alors, on va reparler de la FIFA. Ouais, ça me plaît bien de vous parler de la FIFA, parce que moi, ça m'amuse. Vous voyez, des fois, comme ça, un petit coup de fatigue, de chaud, un truc sur la FIFA, et ça vous fait marrer. Alors, ça s'est passé lundi, avant le début de la conférence de presse au siège de la FIFA, à Zurich. Monsieur le président démissionnaire, Sepp Blatter, a reçu sur la tête un jet de billets. Faux billets, de la part de l'humoriste anglais Simon Brodkin, connu pour ses émissions à la télévision anglaise. Alors, il est apparu déguisé en Lee Nelson, c'est l'un de ses personnages créés pour ses canulars. Alors, visiblement surpris a été Monsieur Blatter.
Non.
Si, il a eu un petit moment de panique, ça s'est vu sur son
comme
visage.
Comme si on soit quelque chose, tu sais pas.
En fait, très précisément, l'humoriste est arrivé, il avait des paquets de billets à la main, il était dans son costume, il s'est approché de la table où était installé Monsieur Blatter pour cette conférence. Et puis d'abord, il les a tendus, donc ça c'est pas non plus c'est pas un geste de haine, hein, puisqu'il est arrivé en faisant évidemment l'andouille. Il les a ensuite posés sur la table. Et puis là-dessus, Monsieur Blatter a commencé à paniquer, il s'est agacé, il en a appelé à la sécurité. Et là, c'est là où les billets ont été lancés. Alors, c'est un savant mélange d'émotions. Je vous invite vraiment à voir ces vidéos. Et de ridicule. Oui, voilà. Alors, l'humoriste a été rapidement évacué par le service d'ordre, bien évidemment. Dans la journée, il a posté sur les réseaux sociaux une photo de son action avec le commentaire « Ravi d'être au siège de la FIFA pour rencontrer Sepp Blatter avant d'obtenir le Mondial 2026 en Corée du Nord ».
En tout cas, ça démontre que non seulement Sepp Blatter est soupçonné de plein de choses, mais qu'il n'a pas d'humour.
Oui, alors il n'a pas du tout apprécié la plaisanterie. Quand il a pris la parole, il a déclaré « On va devoir nettoyer ça ou je ne serai pas capable de m'exprimer. Cela n'est pas acceptable. Cela n'a rien à voir avec le foot. Nous sommes ici pour parler football. Je dois donc retarder cette conférence de presse. » Et là, il s'est esquivé. Bon, il est revenu finalement une dizaine de minutes plus tard. Et là, le président démissionnaire a pu annoncer que la date du 26 février 2006 avait été retenue pour élire le futur nouveau président de la FIFA, puisqu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Hein. Tout ça pour ça. La prochaine fois, je pense que la FIFA fera un communiqué internet. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, ce regard abasourdi de M. Blatter face à cette pluie de billets, un beau moment de vidéo qui forcément a été immédiatement partagé et parodié sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Je veux dire que c'est plaisant hein, à regarder. Et le truc drôle, c'est que la FIFA réclame des droits sur ces vidéos.
Ouais, ils sont forts. Mais ouais. C'est ça, en fait, ils sont pas là pour parler foot, la FIFA. Ils sont là pour parler pognon.
Eh oui. Et oui, alors c'est la monétisation, excusez-moi, des contenus sur YouTube, c'est classique. C'est voilà quelque chose qui est bien mis en place par Google. Il y a voilà les contrats qui sont disponibles. Hein. Il y a une partie des revenus publicitaires sur chaque vidéo qui sont donc redistribués, qui vont être redistribués à la FIFA. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc on peut se moquer de Monsieur Blatter. On peut le ridiculiser.
Mais il faut lui donner de l'argent.
En tout cas, si c'est pas lui, c'est à la FIFA. C'est quand même assez rare hein, de voir une organisation, une entreprise ridiculiser et réclamer un retour financier. C'est le monde moderne.
Ça montre qu'effectivement, ce qui les intéresse le plus, c'est l'argent. Et le foot passe vraiment derrière.
En dernier. Alors, je vais continuer avec du sport business. On va parler des JO. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Les JO de 2020 qui vont se dérouler au Japon. Alors, le futur stade olympique, la grande chose qui doit nous éblouir, a été pensée par l'architecte Zaha Hadid. Ce projet avait été choisi car il était le plus ambitieux. Donc, l'idée, c'était quand même de faire dans le tape à l'œil. Il était le plus ambitieux, le plus cher. Alors, au niveau de sa forme, c'est un casque de vélo. Non mais c'est vrai, en plus ça ressemble vraiment à un casque de vélo, 300 000 mètres carrés, d'une hauteur de 70 mètres de haut. Voilà, bon, il faut savoir que comme toute construction prévue dans ce genre d'événement sportif, ben, les coûts ont
augmenté.
Donc là ils ont doublé à 2 milliards d'euros, un peu plus même d'ailleurs. C'est trois fois le coût du stade des JO à Londres par exemple, donc ça aurait été le stade le plus cher de l'histoire des jeux. Hein. Bon, il y en a, ça veut dire qu'ils peuvent toujours faire mieux, ça.
Alors, ça aurait été, ça veut dire que c'est abandonné.
Bah, il faut quand même savoir que le Japon a une petite crise financière, qu'il y a une énorme dette et que, a priori, les trois quarts du budget du chantier n'ont toujours pas été financés à cette date. Pourtant, c'était un projet qui était soutenu par un ancien Premier ministre, Monsieur Yoshiro Mori, qui est à la tête du comité d'organisation pour Tokyo 2020. Et pour soutenir ce projet au coût démesuré, il avait expliqué que, bah oui, mais c'est plus cher que même à Pékin, tout simplement parce que le coût des salaires est plus élevé au Japon et que donc, bah, ça expliquerait tout. Bon, sauf qu'en face, on lui a répondu que c'était pas tout à fait vrai et effectivement... Et effectivement, le projet bah, est tombé à l'eau puisque Monsieur Shinzo Abe a fait volte-face, excusez-moi, dans ce dossier. Il faut dire qu'il y a eu une énorme pression ces derniers jours. Parce que en fait, il y en a, ça fait 3 ans qu'ils se battent. Ouais, ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette bataille jour après jour et que ils font de la propagande, ils écrivent des tracts, ils vont de partout, ils font des manifestations contre ce futur stade olympique. Et pourtant, ça tenait bon en face. Et alors là, c'est pour ça que c'est quand même un peu la surprise générale, Monsieur Shinzo Abe qui annonce l'interruption de ce projet. Et a priori, tout va être repensé et remis à plat. Donc là, on y repart de zéro. Alors, il faut dire que dans cette bataille, il y avait quand même des gens. Hein, il y avait des artistes, des architectes, des urbanistes, des militants, des riverains qui ont bataillé ferme, vraiment ferme. Et pourtant, ça a mis vraiment du mal. Ça, ils ont eu du mal hein, à faire décoller.
Ouais, de toute façon, dans le genre de combat, en général, on les perd. Donc là, c'est exceptionnel quand même.
Ouais, mais il faut dire qu'au Japon, les grands médias, ils sont quand même dans la poche un peu hein, du gouvernement. Hein, ça, c'est pas nouveau. C'est toujours comme ça. Ils, en général, ils sont suiveurs. Et puis, bah, finalement, là, ils sont sortis du silence. Alors, il faut dire que les sondages indiquent que 80% des Japonais qui ont été interrogés étaient opposés à ce stade. Donc d'un seul coup, il y a eu un changement et la révolte, elle est allée très très vite. C'est-à-dire que ça, elle est arrivée très tard de la part des médias et de la grande majorité de la population, mais elle a été très violente. Vraiment, ça s'est fait d'un coup. Donc il y a eu cette décision. Alors évidemment, ça va encore coûter. Ben oui, puisque c'est pas parce que le stade ne va pas se construire qu'il n'y a pas des contrats en cours. Donc là, ils sont estimés ces contrats sur lesquels il va y avoir des frais. Il y a 44 millions d'euros qui sont pour l'instant estimés. C'est la ville de Tokyo qui va devoir régler la grande partie de ces 44 millions d'euros. Et puis bah, le risque, c'est qu'évidemment, il y ait d'autres entreprises qui demandent encore un peu plus, puisque ça, c'est a priori une estimation assez basse. Alors, pour autant, le combat, il n'est pas fini. Hein. Bah non, puisque c'est pas juste le stade olympique en lui-même qui était critiqué, c'est bien le fait qu'il soit construit, tout simplement. Donc, on en met un autre à la place, même plus petit et même moins cher. Ça plaît pas aux opposants et aux militants qui sont depuis 3 ans quand même sur le terrain. Ils vont pas lâcher prise maintenant, puisque ce stade, il va être l'idée, c'est qu'il soit construit dans le quartier historique de Meiji. Meiji Ryugu, c'est un quartier très vert. On parle de poumon vert de la capitale, de Tokyo. Donc la lutte, elle va continuer, elle va pas s'arrêter là. Alors 2020, c'est pas tout de suite, donc il y a encore un petit peu le temps de se battre. Bon, c'est pas dit quand même que Monsieur Shinzo Abe fasse l'impasse quand même sur son stade.
Ouais.
On n'y croit pas trop.
Non. Alors, vous avez peut-être entendu, vous avez croisé, si vous habitez à Lyon et que vous êtes sorti de la ville, qu'il y a des paysans qui sont là pour boucher un peu certaines agglomérations. Alors, c'est Lyon aujourd'hui qui est à la mode chez la mobilisation. Alors, ce n'est pas les paysans, hein, contrairement à ce que je viens de dire, c'est certains paysans. Et c'est porté par le syndicat de droite libérale, la FNSEA, et ses instances départementales, la FDSEA. Bien évidemment, donc c'est toujours sur le problème de l'achat par le monde industriel de la viande pas chère du tout, parce que si vous allez chez votre boucher, vous verrez que tout ce que raconte la FNSEA est totalement faux, parce que ça s'applique pas aux bouchers, justement, qui achètent la viande à des prix corrects, mais ça s'adresse à la grande distribution. C'est une particularité du mouvement, hein, c'est qu'ils démontrent qu'ils sont vraiment assujettis au monde industriel, et que c'est ce monde industriel auquel ils participent, qui d'un seul coup leur redonne moins d'argent, et donc ils sont pas contents. Hein, donc ils sont à la fois participants et victimes du système qu'ils ont mis en place il y a de nombreuses années. Bon, et on va revenir quand même, parce que je trouve que on a très peu parlé dans les médias dominants de ce que c'est vraiment que la FNSEA. Alors, je rappelle aussi qu'il y a eu quelques militants de la Confédération Paysanne, hein, qui ont participé individuellement, que la Confédération Paysanne a fait hier encore un communiqué de presse, pour rappeler qu'effectivement, ce que proposait le président Hollande allait pas assez loin, mais il explique que le problème vient pas de l'endettement, le problème vient notamment des circuits courts qui n'existent pas, de l'industrialisation, etc. Mais je rappelais quand même ce que c'est que la FNSEA et pourquoi il faut pas soutenir la FNSEA. Donc d'abord, sur les OGM, j'ai retrouvé une phrase de Xavier Belin. Donc Xavier Belin, je vous rappelle, c'est, lui on l'a vu pas mal, hein, c'est le chef de la FNSEA, donc syndicat de la droite libérale agricole. Donc sur les OGM, il a dit, je cite, qu'il voulait jouer la carte du dialogue. Oula, c'est pas bon ça. Alors il explique, le sujet des OGM doit être aussi débattu de manière peut-être plus ouverte qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Plus précisément, dit-il, il reconnaît craindre un retard de la France sur ce dossier. Alors jusque-là, on se dit, putain, c'est ambigu, qu'est-ce qu'il veut dire? Et alors, je continue de le citer. Je le crains parce que, autant sur la première génération des OGM, nous étions opposés nous-mêmes, agriculteurs, donc aux OGM, c'était plutôt une espèce de rente pour les grandes firmes agrochimiques. Aujourd'hui, ce qui sort en matière de biotechnologie, c'est autre chose. Ce sont des qualités fonctionnelles des plantes. Et d'un seul coup, il est pour les OGM. Voilà. Bravo. Donc, nous ne soutiendrons pas la FNSEA qui est pour les OGM. Sur les épandages, on avait parlé il y a quelques semaines, donc il y a un projet de loi sur les épandages des produits toxiques, cancérigènes, toutes les toxicités possibles contenues dans les produits que répandent notamment les paysans de la FNSEA. Il y a une loi qui est passée pour dire qu'il faut pas épandre auprès des écoles, auprès des maisons de retraite, des choses comme ça. Et la FNSEA s'est opposée à tout ça. Et il y a eu une manifestation avec feu de palettes il y a quelques mois, bottes de paille en feu face à des CRS et discours super agressif toujours de Xavier Belin qui a dit « Abat la dictature de l'environnement ». Alors là, c'était juste pour protéger, parce qu'on rappelle que c'est des produits vraiment toxiques et cancérigènes, hein, c'est reconnu par tout le monde au niveau international. Eux, ils veulent continuer de les épandre devant les fenêtres des écoles pour que les petits-enfants aient des cancers. A priori, c'est leur but, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc bref, ils se sont beaucoup mobilisés contre cette loi sur les épandages. Et il explique, toujours ce même Xavier Belin, que si l'on veut que nous soyons concurrentiels, il nous faut nous laisser faire comme les concurrents, c'est-à-dire polluer à mort et balancer dans la gueule des enfants quand ils sont à l'école des produits toxiques. Bravo. Alors, sur les projets inutiles et destructeurs de l'environnement, leur position est plutôt ambiguë, mais quand ça, ça valide l'agriculture productiviste, ils sont pour. On rappelle ce qui s'est passé au barrage de Sivens, donc quelques temps après la mort du militant qui luttait contre ce barrage de Sivens. Les agriculteurs de l'FNSEA, à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de la région, ont manifesté pour soutenir le barrage et donc contre les militants qui avaient lutté, donc contre notamment le militant qui a été tué par la police. C'était la classe quand même, hein. Et on rappelle qu'effectivement le but c'était de produire de l'agriculture intensive dans des régions où il n'y a pas assez d'eau, on plante des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau, notamment sur des espèces qui n'existaient pas dans la région et qui ne sont pas endémiques parce que effectivement elles ne pouvaient pas pousser dans des régions où il n'y a pas assez d'eau. Donc on est obligé artificiellement d'amener de l'eau. Alors sur les circuits courts, la FNSEA est entièrement contre. On rappelle qu'ils avaient beaucoup mobilisé contre l'écotaxe. Donc le but était de taxer les routiers et donc les produits agricoles qui allaient à l'autre bout du monde pour avantager les produits courts. Donc ça, ils s'étaient beaucoup élevés contre, ils sont totalement contre. Et puis bon, je vous rappellerai quand même qu'ils sont très liés. Alors comme ce sont des patrons, c'est l'équivalent du MEDEF, hein, mais pour le monde agricole, même si c'est un peu plus complexe, que un peu différent du MEDEF, hein, parce que le monde agricole est différent du monde industriel, mais ça se rejoint. Ils sont très amis des politiques, hein. On vous rappelle que François Hollande était allé aux 30 ans de Sophie Protéol. Alors c'est quoi Sophie Protéol? Ah ben, c'est l'empire agro-industriel de Xavier Belin. Ah oui, en fait, c'est pas tout à fait un agriculteur, Xavier Belin. Il a un empire qui s'appèse, son chiffre d'affaires de sa boîte, 7 milliards d'euros. Ah oui, c'est lui qui est porteur, qui est fer de lance de tout ça, mais c'est pas lui qui élève 3 vaches, hein, pas du tout. Lui d'ailleurs, il défend aussi, par exemple, la ferme des 1000 vaches, donc qui était défendue par la FNSEA, qui l'est toujours d'ailleurs. Et puis pour terminer, en plus d'être très très à droite, ils sont aussi ultra racistes, et il y avait eu une opération qui s'appelait Récupérons nos terres, c'était en juin 2013. Une cinquantaine d'agriculteurs étaient allés déloger des gens du voyage qui avaient eu le malheur de s'installer sur des terres agricoles, qui n'étaient pas cultivés à ce moment-là, mais qui étaient des terres agricoles. Donc ils étaient allés les virer manu militari. Parce que les gens du voyage, c'est pas bien non plus pour ces agriculteurs de l'FNSEA. Ah, c'était un truc officiel, hein, c'était organisé par la FDSEA, donc la Fédération départementale des syndicats agricoles, des Yvelines. Hein. Bon, voilà. On pourrait en sortir des kilos sur la FNSEA. C'est pour nous rappeler que ceux qui manifestent en ce moment, qui bloquent, pour des raisons qui sont quelquefois défendables, hein, il y a des soucis dans le monde agricole, mais c'est eux qui ont participé à la création de ces soucis, et ils sont tout sauf défendables. Ces gens, ces militants, ces soi-disant syndicalistes, enfin ces syndicalistes patronaux de la FNSEA et de la FDSEA.
Oui, on comprend mieux pourquoi M. Belin est facilement reçu à l'Élysée, entre entrepreneurs ou gens de droite. En tout cas, on est voilà, c'est plus simple, hein, bien évidemment. Et puis, moi, j'ai noté aussi que M. Belin est toujours dans ce rôle de moi, je suis calme. C'est les gars qui sont énervés. Et alors déjà, cette expression les gars, elle revient assez fréquemment, que ce soit à l'oral ou à l'écrit dans des interviews. Certes, les femmes sont moins nombreuses dans les métiers de la terre. On est bien d'accord. Mais enfin, cette expression, elle symbolise quand même bien.
J'aurais pu chercher sur le sexisme de la FNSEA, qui doit être aussi pas mal.
Écoute, voilà, je soulevais quelque chose. on va rester dans les animaux, mais on va parler de combat de coq. Alors, vous connaissez cet article, le 521.1 du Code pénal, qui réprime les sévices et actes de cruauté envers les animaux.
Oui.
Mais il y a des exceptions.
Bah, la FNSEA avait montré, ils avaient torturé des animaux là, dans une manif il y a quelques mois.
Donc sinon, légalement, il y a des exceptions, les corridas et les combats de coqs. Lorsqu'il y a une tradition locale ininterrompue, donc voilà, c'est toujours ces exceptions. Alors, les combats de coqs ne sont autorisés que dans certaines régions, on trouve la Réunion, Guyane, Antilles, Polynésie et dans le Nord-Pas-de-Calais.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une tradition ininterrompue.
Oui, il y a. J'ai pas eu le temps de vous chercher des histoires patrimoniales sur cette question. Vous m'en excuserez. Alors, on dénombre plus d'un millier de coqueleurs, c'est les entraîneurs. Une cinquantaine de galodromes, c'est l'arène du combat. Et en 2013, la Fédération des coqueleurs du Nord de la France revendiquait 2000 licenciés.
Ouais. Et je veux dire, ça marcherait pour le génocide, par exemple, si on a une tradition, si le pays a une tradition génocidaire, on peut continuer
de
génocider. C'est horrible.
Alors, partout ailleurs, hein, c'est interdit, vous risquez 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Alors c'est en France, cette exception culturelle a été validée, je vous rappelle, en septembre 2012 par les juges constitutionnels qui ont reconnu comme étant conforme à la loi fondamentale la différence de traitement entre les régions à tradition de corrida, de pratique de combat de coq et les autres. Donc on était bien emmerdés hein, quand cette décision était parue. Alors, on peut se dire que les combats de coqs relèvent de la même logique que la tauromachie pour ces exceptions. Hein. Simplement, il y a une petite différence, c'est qu'il y a une loi de 1964 qui condamne toute création d'un nouveau galodrome, alors qu'il n'y a rien sur la construction de nouvelles arènes dédiées à la corrida. Donc, différence. Eh ben, c'est dans cette différence que s'est engouffrée une avocate pour dénoncer une atteinte au principe d'égalité devant la loi garantie par la Constitution. Et elle déclare l'enjeu de l'audience, puisque le Conseil constitutionnel s'est penché mardi sur la question, l'enjeu de cette audience, c'est la reconnaissance de l'égalité entre deux traditions locales. Elles peuvent être contestées par les défenseurs des animaux, mais à partir du moment où la loi reconnaît une exception pour les courses de taureaux et les combats de coqs, il n'y a pas de raison d'instaurer une différence de traitement entre ces deux traditions. Donc ça, c'est sa base. Alors, le Conseil constitutionnel, je vous le disais, il s'est penché mardi sur la question. Il a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par l'avocate. Elle représente deux réunionnais qui sont poursuivis pour avoir ouvert en 2012 un nouveau lieu de combat de coq, un nouveau galodrome. Alors, du côté du représentant public, on justifie la construction de nouveaux galodromes par une exception culturelle momentané, puisque le but serait, à terme, l'extinction de la pratique.
Ah oui, alors on ouvre des trucs pour que les coqs se battent et meurent et souffrent, mais le but c'est de les faire disparaître. Il faut qu'ils expliquent la logique là. C'est
alors le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 31 juillet prochain. Ça va pas changer la donne hein, pour les pauvres coqs hein, et les pauvres taureaux. Voilà, ça sera toujours permis. Sauf que là, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un peu plus de galodrome ou pas. C'est vrai que dans certaines régions du Nord, Pas-de-Calais, les combats de coqs ont repris intensément depuis 2010. Il y a les associations de protection des animaux qui se bataillent sur place. Parfois, ça a été assez animé hein, entre les éleveurs et les militants. Quelques oppositions assez franches à certains endroits. Mais voilà, ils ont toutes les autorisations hein, pour continuer les actes de cruauté. Il faut quand même savoir que les coqs, on leur met des ergots en métal. Enfin, c'est vraiment horrible.
Non, mais c'est vraiment un truc barbare. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Et les traditions, quand elles sont barbares, il faut peut-être revenir dessus. Hein. D'ailleurs, même quand elles sont pas barbares, mais bon, c'est un autre débat. C'est à moi et je ne sais pas de quoi je parle maintenant. Ah oui, oui, je voulais faire un petit truc sur le livret A. Donc, on a eu, notamment hier ou aujourd'hui, des communiqués de la part de la CGT, de la part de Sud PTT, pour défendre le livret A, non pas en tant que livret A, mais en tant que livret qui rapporte de l'argent et qui rapporte les 1%. Parce que vous avez compris, le 20 juillet dernier, le gouvernement a décidé de baisser la rémunération du taux du livret A à 0,75. Je vous rappelle qu'au niveau de l'inflation, on est beaucoup plus bas, on doit être à 0,3, je crois. Donc, c'est un livret qui permet à des gens de s'enrichir. Alors, tout est relatif, bien évidemment, avec des taux comme ça, mais d'augmenter leur argent. Alors, moi, je ne comprends pas l'idée de s'enrichir financièrement quand on est soi-disant de gauche, soi-disant alternatif, soi-disant qu'on milite pour autre chose. Alors, quand je vois Sud PTT ou la CGT réagir, je me pose des questions et je regarde ce qu'ils disent. Alors, la CGT, eux, ils disent, je cite, « Le gouvernement a pris le risque d'une décollecte massive et accélérée et à plus long terme, une rupture du lien fort entre les ménages modestes et le seul produit d'épargne et de prévoyance auquel ils ont accès. » Alors, je comprends pas toute la phrase. Ils ont pris des intellos de la CGT pour pondre une phrase alambiquée pour pas grand chose. Ils disent qu'ils ont peur que les gens, les pauvres, ils ont accès qu'à ça, mais ils mettent plus leur argent là-dessus. Mais c'est incohérent, la phrase. S'ils ont plus accès, ils ont accès qu'à ce mode d'épargne-là, ce qui peut se comprendre pour les pauvres, ceux qui mettent la moyenne, là, il y a des sommes très faibles, 150 euros sur un livret.
Pour les pauvres et les moins pauvres. Et, voilà. Sois gentil
non,
avec les pauvres.
Non, mais eux, ils parlent des pauvres. Les ménages modestes, c'est pas moi. Et, ben, s'ils ont accès qu'à ça, ça va rien changer. Ils vont continuer de mettre là-dessus, puisqu'ils n'auront pas accès à autre chose. Donc, je comprends pas. Le but du gouvernement, c'est pas de fermer le livret A. Ça n'a jamais été question de fermer le livret A. C'est loin de ça. Ça finance le logement social, entre autres. Donc, je comprends pas bien. Et alors, le Sud PTT, postier, donc le syndicat sud des PTT de La Poste, explique, je cite, pour La Poste et surtout pour quelques 10 millions d'usagers qui ont en moyenne 150 euros sur leur compte, le livret est une véritable bouée de sauvetage, un succès donné au droit au compte qui permet de payer, de faire virer son salaire, etc. etc. Ce qu'ils disent. Mais personne n'a pensé supprimer le livret A, ni l'intérêt du livret A. Alors donc, ils ont des faux combats comme ça, et c'est un peu porté par d'autres. On a le CLCV, donc une association de consommateurs, qui a fait pareil, qui dit « Ah ouais, mais non, il faut pas baisser le livret A, il faut le laisser à 1% et il faut pas le descendre à 0,75 ». Donc tous ces gens militent pour la financiarisation du monde. Que les certains personnes ont pas beaucoup d'argent et qu'ont accès au seul livret A pour placer leur argent, je vois pas où est la problématique. Et ce qui est inquiétant, c'est l'idéologie qui est portée par ces gens. Ils s'en rendent pas compte, mais l'objectif, et c'est le livret A est un objectif idéologique premier. C'est pas simplement d'avoir un endroit où les gens mettent leur argent, parce que ils ont un compte en banque, ils peuvent mettre leur argent dessus. On s'en fout. C'est mettre leur argent où ça gagne de l'argent. Parce qu'il faut faire accepter par la population que quand on met de l'argent à la banque, ça va gagner de l'argent parce que ça participe au système financier. Il faut que les gens acceptent ce capitalisme, acceptent le système financier. D'ailleurs, si vous regardez les banques alternatives, notamment on peut prendre l'exemple de la banque de Radio-Canuc et la NEF, les taux sont super bas parce que l'objectif, c'est pas d'enrichir les gens. L'objectif, c'est effectivement que l'argent ne se dévalue pas. Comme il y a un peu d'inflation, on compense l'inflation, mais c'est tout. Cet argent qui est en réserve va ensuite servir à la banque, comme la NEF, à soutenir des projets alternatifs, ou le livret A, la construction de logements sociaux. Mais ça doit pas enrichir les gens, parce que sinon, eh ben, idéologiquement, on fait accepter le capitalisme. Et c'est le but de tout ça. Et du coup, c'est triste de voir les syndicalistes de la CGT au-dessus de PTT de se battre sur le taux, alors que le taux, on s'en fout, il devrait être juste à l'inflation. Parce que c'est important symboliquement de mettre de l'argent en réserve, parce que les gens ont besoin quand ils ont un moment où ils peuvent économiser, que cet argent en plus serve à un truc positif, c'est-à-dire au logement social, mais que ça ne leur fasse pas gagner de l'argent, que ce ne soit pas la raison pour laquelle on met sur un livret A plutôt que sur autre chose. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce qu'on on économise pour aider le logement social, pour aider, si on est dans des banques alternatives, à des projets alternatifs. Et c'est ça qui est important. Donc là, le combat des assos de consommateurs ou de certains syndicalistes, j'ai trouvé très déplacé. Même s'ils ont quelque part un petit peu raison quand même, en disant que ceux qui vont gagner de la baisse du taux, c'est les banques privées, parce qu'il y a une astuce de reversement d'argent dans les banques privées, mais en fait c'est pas ça qui compte, et leur combat à mon avis, il est déplacé. Faudrait plutôt attaquer ceux qui mettent ailleurs que sur le livret A, dans des placements qui gagnent beaucoup et qui font tourner le système financier avec toutes les dérives qu'on connaît. Et bizarrement, ni le CLCV, ni la CGT là, à ce moment-là, ni Sud n'a sorti cet argument-là. Alors, ils le font à d'autres moments. Enfin, pas la CLCV. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre comme combat de défendre le droit d'être capitaliste et d'être capitaliste financièrement, même sur des sommes ridicules, alors qu'au contraire, idéologiquement, il faut lutter contre ce capitalisme financier et contre le capitalisme tout court d'ailleurs. Bref, voilà, j'étais pas content.
Je crois que tu vas continuer à être pas content ou...
Parce que moi, voilà, la NEF, les taux sont super bas, bien inférieurs à tout ça, et au moins on a bonne conscience.
Alors, tu voulais nous parler de Madame Inès?
Non, alors, j'avais mis entre parenthèses, si vous voyez sur le site, de la Fressange, parce que les nobles, les gens qui ont gardé la particule, ça m'énerve beaucoup, en tant que non-noble, peut-être c'est ça, mais c'est pas de la jalousie, c'est de la lutte sociale. Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque la justice a condamné aujourd'hui Inès de la Fressange à démolir la dernière construction qu'elle a faite, à peu près 100 mètres carrés, qu'elle a construit sans permis sur sa propriété, sur les hauteurs de Tarascon, dans une zone protégée. Alors c'était porté par l'ADER. L'ADER, c'est l'Association pour la Défense de l'Environnement, qui avait saisi le juge des référés de Tarascon pour faire cesser les travaux de construction de ce bâtiment de 100 mètres carrés, entreprise par la SCI, donc une société qu'elle a montée pour gérer sa maison et la construction sur ce site de la Montagnette à Tarascon, une zone de garrigues isolée qui est classée, je le cite, zone naturelle d'intérêt écologique, d'intérêt floristique et d'intérêt faunistique. Elle voulait détruire tout ça, la petite Inès de la Fressange. Bon, bref, Elle a fait comme beaucoup dans le Sud, et ailleurs d'ailleurs, qui se croient tout permis parce qu'ils sont célèbres. Hein. On a des présentateurs télé qu'on fait parler d'eux il y a de nombreuses années pour le même genre de choses. Elle s'est dit, de toute façon, si je demande un permis de construire, je l'aurai pas, puisque je vais détruire une zone protégée. Donc, elle y va sans permis de construire en disant que de toute façon, à la fin, ils vont légaliser, vont dire ok, c'est bon. Eh ben non, pour l'instant, elle n'a pas eu le droit accordé à cette nouvelle construction, donc elle doit la détruire. Et il y a une amende de 300 € par jour de retard. Bon, par rapport à l'argent qu'elle a, c'est rien du tout, vous imaginez. C'est pas comme vous et moi, Inès de la Fressange. Elle a pas les mêmes revenus. Mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'environnement et pour la lutte sociale, parce que les riches aient tous les moyens, tous les droits de se construire des maisons dans des endroits où c'est pas autorisé. Vous, si vous le faites, vous êtes tout de suite arrêté et c'est tout de suite détruit. Elle, il aura fallu quand même du temps, et ça fait plaisir quand la lutte paye, et la lutte a payé.
Alors, on va revenir sur la promotion civile de la Légion d'honneur du 14 juillet 2015. J'ai donc été parcourir le journal officiel, une vingtaine de pages, un chouette PDF, 544 noms. Je me suis intéressée à certains et certaines. Pour les noms connus qui ont circulé, on pourrait parler de Monsieur Michel Rocard, de Madame Catherine Trottmann, pour les politiques, de monsieur Nicolas Hulot, paraît qu'il a fait des trucs bien pour la planète. On pourrait parler de monsieur Thierry Dussautoir, rugbyman. On pourrait parler après d'artistes, monsieur Gérard Jugnot, madame Christine Scott-Thomas, monsieur Alexandre Arcadie, excusez-moi, et puis Laurent Saïm, grand reporter, journaliste. Voilà pour les noms très connus. Puis un nom qui a fait jaser.
Encore un patron?
Ah ben non, un nom proche de Monsieur Servier.
Ah oui, ah ben c'est, ah bah si, du coup c'est proche du patronat.
Oui.
C'est le collabo là.
Monsieur collaborateur, oui, hein, oui, tout à fait, qui a continué jusqu'en décembre 2013 à donner ses bons conseils au groupe Servier, alors que
ces conseils ont permis la vente du Mediator.
Oui,
et
alors que la vente du Mediator était déjà sur la place publique. Il a été entendu dans cette affaire sous le statut de témoin assisté. Alors évidemment, ça en a fâché quelques-uns et quelques-unes, en particulier les victimes et du Mediator.
Enfin, les victimes encore vivantes.
Oui. Et puis
famille.
les familles qui sont elles aussi victimes de cette affaire, victimes du capitaliste et du profit. Oui, là je suis dans la caricature, je sais.
Mais non, écoutez, mais c'est exactement ça.
C'est exactement ça, quoi.
Ce produit ne servait pas à perdre du poids, ça a été donné pour ça, avec les conséquences qui étaient connues. Donc c'est juste dans le but de faire du profit, c'est typique.
Il y en a une autre que ça a énervé, c'est Irène Frachon, la pneumologue, je vous rappelle, qui a sorti cette affaire. Elle a adressé une lettre ouverte à Monsieur Hollande. Bon, elle est assez agacée, on la comprend. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de l'avocat Maître Baudelot, l'avocat d'Henri Mallet. Cela fait du bruit pour rien, a-t-il expliqué, que vous ne voyez pas où était le problème.
Oui, je vais penser à la même chose des morts du Mediator, ça fait du bruit pour rien, c'est ça. C'est assez incroyable quand même de pas assumer.
Alors, j'ai été effectivement un petit peu regarder ce qu'il y avait dans ces listes. D'autant plus que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est noté assez sobrement. Par exemple, Jean-Paul Agon, de toute façon on va en parler, président directeur général d'un groupe industriel de produits cosmétiques. Chevalier du 31 janvier 2007. Voilà, il est au grade d'officier maintenant, il est dans la rubrique économie, industrie et numérique. Et c'est tout comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas les entreprises qui sont nommées. Oui. Alors vous me connaissez, moi évidemment, je ne me suis pas trop intéressée aux petites rubriques éducation, justice, même affaires sociales. J'ai plutôt été voir un petit peu tout le reste et j'ai cherché un petit peu le patronat, ou en tout cas ce qui pourrait y être largement affilié. Et puis je me suis intéressée un petit peu effectivement aux entreprises, donc ça m'a demandé quelques recherches un petit peu parfois douloureuses, puisque les entreprises, elles sont bien représentées. Il faut bien comprendre que derrière, la personne a cette Légion d'honneur, mais l'entreprise est très satisfaite derrière. Alors, on les retrouve dans tous les secteurs et dans toutes les rubriques, puisque, par exemple, aux affaires étrangères et développement international, au grade d'officier, on va retrouver monsieur Jean-Claude Faya, du groupe Faya. On est dans les bâtiments et les travaux publics, mais évidemment, l'entreprise ne vous est pas donnée. Dans la même rubrique, on va trouver Patrice de Vivias. Lui, il est chez Total. Total apparaît plusieurs fois dans cette affaire, mais on va retrouver aussi le groupe Carrefour, on va retrouver BNP Paribas, on va retrouver Dassault, on va retrouver Eurovia, on va retrouver aussi des groupes comme Sheraton. Ils sont un peu tous là. On retrouve évidemment EDF, la RATP. On en retrouve pas mal dans l'aéronautique. On va retrouver beaucoup Airbus. Ça, c'est quand même assez impressionnant. On va retrouver dans la défense Safran, la Soufram, et ainsi de suite. Et puis, dans la rubrique travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social, on retrouve Manpower, par exemple. Oui, tu peux sourire, tout à fait. Voilà, donc les entreprises apparaissent beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une masse de gens, des fonctionnaires, des profs par exemple, tout un tas de gens qui ont servi dans les ministères, on va retrouver des religieux aussi, on va retrouver des gens de la société civile, par exemple des associations de consommateurs, on va retrouver voilà, vraiment des artistes, hein, des sportifs, et puis il y a toutes ces entreprises au milieu qui sont quand même bien présentes. Je cherche ce que j'aurais pu vous dire d'autre, parce qu'il y en a plein. Alors, donc, je vous disais, monsieur Jean-Paul Agon, vous avez peut-être reconnu, hein, donc je vous avais dit, hein, L'Oréal. On retrouve Veolia, Valeo, Sodexo, on retrouve Sanofi, enfin, voilà, Eurocopter, PSA, voilà. Ils sont tous bien là, enfin, tous presque. C'est-à-dire que si c'était pas là, c'était peut-être la fois d'avant, hein, parce qu'on en avait peut-être pas parlé, on n'avait pas fait le tour. C'est ça, la Légion d'honneur aujourd'hui.
Bah, oui, c'est les politiques qui sont au pouvoir, voilà, et qui donnent des récompenses à leurs amis industriels, à leurs amis patrons. C'est de ça dont il est question, ça a toujours été ça. Leurs amis journalistes aussi, il y a plein de journalistes, ceux qui collaborent avec le pouvoir, pas ceux qui sont indépendants, bien évidemment. Ils récupèrent aussi ces prix, ces Légions d'honneur. Et voilà, ça sert à ça. Si vous regardez des anonymes, des gens qui ont milité, le petit militant, le petit syndicaliste de chez L'Oréal, il n'a pas de prix. Alors qu'au jour le jour, il se bat pour aider ses collègues salariés, pour les informer, etc. Alors que le patron de L'Oréal, il a sa petite breloque. Voilà. Et c'est les puissants qui remercient les puissants. Ça a toujours été un petit peu ça. On rappelle qu'il y a des grandes histoires, des gens qui l'ont refusé, notamment les journalistes du Canard Enchaîné. Voilà. Et refuser la Légion d'honneur, c'est montrer finalement, on est respectueux de ce qu'est, je sais pas, la démocratie ou la République, vous appelez ça comme vous voulez, respectueux des autres quand on la refuse. Vraisemblablement, ils ne la refusent pas, ces gens-là, donc ils n'en ont rien à foutre de nous, qui ne l'avons pas et qui ne la voulons pas.
Puisque c'est les ministres, hein, qui proposent. Ouais.
Chaque ministère a un taf.
Je vais terminer par une phrase de Fabrice Nicolino.
C'est qui, Fabrice Nicolino?
C'est un journaliste qui a été blessé en janvier à Charlie Hebdo. Et qui a écrit sur son blog « Mettre une breloque à mon revers, ou pire encore, la laisser sur son délicat velours, serait d'une telle extravagance que je ne pouvais bien sûr m'y résoudre. » Puisque Fleur Pellerin, notre bonne ministre de la Culture, a proposé de le faire chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres,
et il a refusé. Ah bah, ouais, j'en parlais, voilà. Je ne savais pas qu'il avait refusé. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, bien évidemment.
Voilà, nous resterons là-dessus.
Ouais. Alors, on va parler un peu de vélo. Alors qu'on va déborder un peu, mais il n'y a plus d'émission en ce moment après nous. On va parler de vélo. Et il y a un truc, alors là je vais féliciter Copenhagenize, je ne sais pas comment ça se prononce, donc Copenhague vous connaissez, vous rajoutez à la fin N-I-Z-E, c'est le nom d'un magazine internet sur le vélo et qui classe les villes. Et les villes vélo en Europe, tout ça, ils font un classement. Ils ont fait un classement et Lyon n'apparaît pas et ça énerve Gilles Vesco. Et rien que pour ça, je les remercie intensément. Alors Gilles Vesco, c'est l'élu qui s'occupe des vélos, hein, des déplacements, la voirie qui est... alors lui, il est pas pro-vélo, il est pro-vélo publicitaire. Hein, ceux qu'on a à la rouge qui se baladent dans Lyon, hein, les vélos en libre-service, comme ils disent, qui en échange ont augmenté beaucoup la surface de publicité dans Lyon. D'ailleurs, on ne sait pas s'il aime le vélo ou la surface publicitaire. En plus, on n'a jamais bien su, parce que s'il aimait le vélo, il aurait demandé des vélos sans pub. Mais il a demandé des vélos avec des contreparties avec pub, bizarrement. Enfin bon, bref. Mais, alors, donc, on n'est pas classé Lyon. J'ai dit on, parce que j'habite Lyon et que je circule à vélo depuis plus de 20 ans. On n'est pas classé. Nantes est 7e, Paris 17e. Oh, mais alors. Alors, bien sûr, Gilles Vesco, il va de son. Non, mais les critères, ils sont flous, voire ambigus. Ça l'arrange. Alors, c'est vrai que les critères ne sont pas totalement connus. Il y a 13 critères. C'est un peu flou dans la dénomination. C'est la culture du vélo, la perception des cyclistes par la ville et par ses habitants, la facilité de circulation, la sécurité d'un deux roues sur la route, les infrastructures dédiées, etc. Mais si on réfléchit à tout ça, c'est normal que Lyon ne soit pas classé. Parce que Lyon a très peu de pistes cyclables. On vous rappelle que Lyon a essentiellement des bandes cyclables, c'est-à-dire des bandes qui sont sur la chaussée, non séparées de la route, donc envahies par les voitures qui s'arrêtent, donc qui sont très peu utilisables. Donc effectivement, les vraies pistes cyclables utilisables à Lyon, il n'y en a quasiment pas, il doit y en avoir deux ou trois, celles qui sont sur les quais et celles qui va du centre-ville à la Part-Dieu. C'est à peu près tout, le reste c'est des bandes cyclables. On rappelle que les TCL, gérés par le Citral, n'autorisent pas les vélos. Alors qu'à Copenhague, les vélos peuvent monter. D'ailleurs, un wagon est réservé aux vélos. On vous rappelle que il y a des quartiers qui sont très enclavés par le vélo à cause de du dénivelé, notamment la Croix-Rousse et Fourvière. Croix-Rousse a vu un projet, il y a de nombreuses années, d'un remont de vélo dans le tunnel qui est inutile, là, qui part de la rue Terme. Il a été abandonné parce que, soi-disant, ça coûtait trop cher. Ça coûtait certes moins cher que rénover un tunnel routier le tunnel routier de la Croix-Rousse, mais non, voilà. Donc, on pourrait en citer des tonnes comme ça. Il n'y a aucun parking vélo sérieux à Lyon, digne de ce nom, comme il y a dans certaines villes en Allemagne ou dans des parkings protégés, on peut laisser son vélo sans le risque de se le faire abîmer. Il n'y en a pas à Lyon. Il y a même des pistes cyclables dangereuses. Il y a eu un reportage sur la piste cyclable qui est vers les jets d'eau, qui est même dangereuse pour les cyclistes. Voilà. Alors, il y a plein d'arguments pour dire que, certes, le vélo a progressé, la politique de la ville en est en partie responsable, mais on est très très loin d'être une ville cyclable. Alors on a gagné le tourne à droite sur certains feux, hein, où on n'a plus besoin de ça, on a le droit en tant que cycliste de plus s'arrêter au feu rouge quand il y a le petit panneau qui nous indique qu'on a le droit de tourner à droite sans s'arrêter. Mais les progrès sont tellement lents. Il y a des, grosso modo, aujourd'hui, Lyon, c'est à peu près l'état de certaines villes belges ou allemandes d'il y a 30 ans. Au niveau du vélo. Donc c'est normal qu'on ne soit pas classé. Monsieur Gilles Vesco peut être déçu, mais quand il y aura une vraie politique du vélo à Lyon digne de ce nom, on en reparlera.
Ouais, et puis surtout le développement du vélo, pour l'instant, il se fait aussi au détriment et des piétons, puisque bah il y a des endroits, bizarrement, il y a eu des rénovations, mais il n'y a pas de bandes de pistes cyclables.
Il y a même des endroits, les bandes cyclables sont sur le trottoir.
Donc, de fait, certains et certaines cyclistes se disent qu'il faut mieux rouler sur le trottoir plutôt que de se faire écrabouiller. Le problème, c'est qu'évidemment, ça pose des problèmes de, on va dire, de cohabitation. Alors évidemment, on va être tous contre les voitures, c'est bien ça l'idée. Mais tout ça, ça montre quoi? Ça montre que mettre le vélo et les piétons dans la ville, c'est quand même une mentalité. Et que cette mentalité, elle vient pas en faisant du tape à l'œil, en faisant de l'événementiel, elle vient bien aussi par l'éducation et la transmission. Si aujourd'hui, dans les pays du Nord, le vélo est aussi développé, c'est parce qu'il y a eu un travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est tellement bien implanté que tout est fait pour le vélo. Mais de A à Z, vous prenez un taxi avec votre vélo, vous l'accrochez à l'arrière parce qu'il y a un clic exprès pour ça.
Ah oui, ça, il n'y a aucun taxi à Lyon qu'à ça.
Et ça, c'est pas quelque chose qui est événementiel. Tape à l'œil, ça fait partie du quotidien. Donc, tant qu'à Lyon, on se restera sur cette politique événementielle qui touche tous les sujets de la ville, on progressera pas. Mais pareil, après, pour Villeurbanne et ainsi de suite. C'est-à-dire que sur Lyon, il va falloir aller bien plus loin et créer des vrais espaces. C'est-à-dire, l'espace, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il ne peut pas être au détriment des piétons. Il ne peut pas être au détriment des transports collectifs. Donc, c'est forcément à la place de la bagnole, il n'y a pas de choix.
Oui, de toute façon, il y a beaucoup trop de rues. Alors, on peut très bien mettre des rues cyclables, un petit peu, face aux rues bagnolables, comme on disait.
Ouais, puis moi je trouve ça agaçant de devoir choisir son parcours en vélo en passant là où il y a des pistes cyclables. C'est-à-dire qu'on nous oblige à passer par des endroits et je trouve ça quand même assez vicieux.
Alors on va rester dans le vélo et c'est pour montrer que la France elle aime vraiment pas le vélo en tant que pays, hein, puisque il y a le Tour Alternativa, on en avait passé hein, puisqu'il y avait eu un petit arrêt à Lyon il y a quelques semaines, on en avait parlé, hein, ils étaient allés faire une fête à Place Saint-Jean. Donc ce tour qui regroupe des centaines de cyclistes qui font un tour alternatif pour parler du vélo, du déplacement, des alternatives écologiques, la transition énergétique, tout ce que vous voulez, autour de l'environnement. Donc 5600 km sont prévus, ils sont partis le 5 juin de Bayonne et ils arrivent en septembre, juste avant la COP21, forcément cette réunion pour parler du réchauffement de la planète, du dérèglement climatique, à Paris. Alors, ils ont fait plein d'arrêts, ils ont fait des arrêts symboliques, et a priori, c'est ces arrêts symboliques qui ont embêté le gouvernement. Ils se sont arrêtés, par exemple, le 20 juillet devant la centrale nucléaire de Fessenheim. Alors, on a le droit de s'arrêter, il y a une rue qui passe devant, on a le droit de s'arrêter. Ils ont fait des discours, voilà, ce qu'il faut pas faire, combien ça coûte, etc., etc. Et vraisemblablement, c'est l'idée qui court, la France a décidé de se venger de ce qui se passe, et n'aime pas les cyclistes. Et quand ils sont arrivés en Allemagne, alors, c'était en Allemagne, à Tunsel, très exactement, dans une ferme coopérative, ils ont vu débouler 7 véhicules de police allemande qui était mandaté par la police française pour prendre le nom et les identités de tous les cyclistes. C'est balèze quand même. Alors, je ne sais pas si les cyclistes sont des dangereux terroristes. A priori, c'est ce que laissent entendre la justice, la police et l'État français. Donc, ils étaient coincés, ils n'ont pas voulu retarder le truc. Ils ont tous donné leur papier d'identité à la flicaille, donc allemande, qui a donné à la flicaille française, qui a donné au gouvernement français. Donc, ils sont tous fichés maintenant. Eux, ce sont des dangereux terroristes. Comme le disaient certains militants de la FNSEA et d'autres, on est des Khmers verts quand on roule à vélo. C'est Belin qui avait dit ça de mémoire, ou quelqu'un de la FNSEA qui avait traité les écolos de Khmers verts. Quand on est cycliste, on est Khmers verts. Aujourd'hui, il dirait djihadistes verts, hein, puisque les Khmers, ça parle plus beaucoup au champ. Donc nous, les djihadistes verts, nous sommes mal vus par l'État français, juste avant la COP21. Et le petit truc drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a quelques jours, le 10 juillet, la ministre de la pseudo-écologie, Ségolène Royal, est venue attribuer le label COP21 à l'Alternativa Tour. Donc, à ceux qui organisent ce tour. Comme quoi, hein, c'est peut-être pas elle qui a envoyé les flics, c'est peut-être Val, c'est peut-être d'autres gens, mais voilà, ils se foutent quand même de la gueule du monde. Le COP21, vous verrez, hein, il en sortira bien évidemment pas grand-chose. C'est de l'escroquerie, tout ça, et amis cyclistes, bah, continuez à rouler et essayez de pas donner votre identité quand même. C'est un petit peu dommage. Je crois qu'on a fini, c'est ça ?
Oui, on va pouvoir terminer par un petit agenda. J'ai un concert à vous proposer pour lundi soir.
Lié avec la Palestine et à Villefranche.
Ça va être sympa.
Concert de rap.
Ouais, Tandara.
Ouais, du rap palestinien.
Ouais, ils viennent de Jérusalem.
La partie palestinienne, occupée.
Voilà. Et ils sont en France pour quelques temps, et donc ils seront à la Bourse du Travail de Villefranche lundi 26 juillet à 20h. C'est 21 place Roger Rousset.
C'est gratuit, prix libre. Vous
c'est prix libre, voilà, et je pense que ça va être une bonne soirée.
Donc c'est organisé par le collectif Caladois pour la Palestine et bien évidemment la CNT Interpro de Villefranche qui fait beaucoup de choses là-bas. Et juste avant de se quitter, il est 20h08, on a parlé tout à l'heure de la Turquie, juste rappeler qu'il y a un film turc qui est sur les écrans encore, et encore au moins une semaine, puisqu'il joue encore, qui s'appelle Mustang. C'est un film qui raconte l'histoire de filles dans la Turquie d'aujourd'hui, et qui sont des filles un peu trop libérées, trop modernes, des jeunes filles, hein,
Elles sont perçues comme trop libérées et trop modernes, parce que... Finalement, ça reste des jeunes filles, femmes.
De 12, 14 ans, voire plus jeunes encore. Et donc, elles se retrouvent enfermées dans cette maison familiale qui se transforme en une sorte de prison. Tout monte au fur et à mesure dans ce film. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, il va y avoir des mariages arrangés, tout ce qu'on peut imaginer. Et ce qui est dénoncé dans le film, on pourrait imaginer, c'est l'islam, tout ça. Pas du tout, puisque la religion est très peu présente. C'est dans une famille qui est musulmane, mais qui pratique pas, qui met jamais en avant la religion. Et ce qu'on voit gros comme une maison, c'est quoi ? C'est le patriarcat. Hein, c'est une dénonciation énorme de cette société patriarcale, même quand elle n'est pas vraiment religieuse et quand elle n'est même pas religieuse, où ce sont les hommes qui ont organisé tout ça, avec la collaboration de certaines femmes. D'ailleurs, ce qu'on voit dans le film, ce qui est d'ailleurs horrible, même si des fois elles ont des petites astuces pour être moins sous le joug des hommes, mais c'est quand même très très triste. C'est un très beau film. Voilà, si vous avez envie de voir un beau film et qui fait réfléchir, ça s'appelle Mustang, sur ces jeunes filles turques.
D'autant plus que le film a eu quelques soucis en Turquie.
Ah oui.
Il a été malmené justement par les religieux intégristes et par les conservateurs. Donc voilà, c'est pas fréquent d'avoir du jeune cinéma turc, donc c'est aussi l'occasion. Et le film est déjà à l'affiche depuis quelques temps. Donc
je pense que c'est la dernière semaine.
Vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai qu'il a son petit succès et c'est pour ça qu'il est toujours à l'affiche.
C'est la fin de ce Canu Info, rendez-vous très bientôt.
Bah, la semaine prochaine. Hein.
Eh ben ouais, on fera la dernière.
Ça va être la dernière.
Ça va être difficile.
Voilà, on vous laissera après pour quelques semaines, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra dès la fin août.
Ah, on est fiers d'être le seul Canu Info à tenir juste
Laurent est très fier, tout le mois de juillet. Il est très content, il a chaud.
L'information ne s'arrête pas, nous ne nous arrêterons pas.
Et oui, et même quand on ne sera pas là d'ailleurs, l'information ne s'arrêtera pas.
Ouais. Nous vous souhaitons une belle et chaude soirée. On rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h, pour le dernier Canu Info de la saison. Et sinon, portez-vous bien. Et de toute façon, Radio Canut ne s'arrête jamais, puisqu'il y a toujours un truc qu'on enregistre régulièrement, qui s'appelle les bandes continues.
Et il y a toujours des émissions hein, qui sont
et
là.
Il y a toujours des émissions.
Tout l'été, hein, ne vous inquiétez pas.
Tout à fait.
Les émissions vraiment qui sont là tout le temps. Et puis, bah, voilà, effectivement, c'est aussi l'occasion, comme tu dis, de redécouvrir les bandes continues. C'est un sacré boulot hein, pour nous, puisqu'il y a. On vous a déjà raconté ça. On se réunit comme ça, à quelques-uns et quelques-unes. Puis chacun vient avec sa musique et puis bah, fait découvrir aux autres. Donc voilà, c'est un échange. Et ensuite, eh ben, tout ça vous est proposé, c'est pas formaté chez nous.
Ouais, et dans les émissions qui continuent, je citerai le Petit Bazar le dimanche en début d'après-midi, je citerai La Causerie le dimanche soir à 22h, et j'ai perdu le nom, mais l'émission de punk rap du jeudi soir, je crois c'est à 23h, qui sont toujours là et qui seront là tout l'été. On les salue au passage.